Top, poker, top, les amis. On revient dans notre étude de Maseret Avot. Page 81, effectivement. Donc, pour nous, dans le Perek Dalet, Mishnah Tetvav. C'est-à-dire, Perek Dalet, Mishnah Tetvav. Rabbi Yanaï, Nachon. Poker, top. Ça va, les courageux.
Excusez-moi, s'il y a un monde d'aïe grise,
je
vais laisser allumer les feux.
Ils sont pas éteints tout seuls ?
Non, ils sont pas éteints, c'est que ça allume.
T'as vu ?
Ouais, il y a quelqu'un.
Yalla, Rabotai. Rabbi Yanaï Omer. Ein beyadenu lo mishalvat areshaim ולא, ואף לא מייסורי הצדיקים. אוקיי? רבי ינאי אומר, אין בידינו לא משלוות הרשעים ואף לא מייסורי הצדיקים. כס, כסה ודיר. Il y a, normalement, un des principes de base du judaïsme, c'est Emouna besachar va'onesh. La foi dans ce qu'on va appeler, comment tu dis, la punition ou la récompense. On va dire autrement, cause, conséquence. C'est-à-dire, lorsque je fais quelque chose, il y a une conséquence. Iné. Ce matin, grosse dispute avec mon fils, parce qu'il ne voulait pas s'habiller parce qu'il pleut et qu'il voulait rester dans le lit et tout ça, machin. Truc que peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà connu dans leur vie. Sauf que finalement, il est 8h moins le quart et qu'il faut que je sois là aussi. Donc, je lui ai crié dessus. Et sur le chemin, je suis venu à pied. Et sur le chemin, je lui ai dit, regarde, il y a des conséquences à chaque chose. Je t'ai crié dessus, maintenant j'ai mal à la gorge. Eh, maman, t'as accroché. Maintenant, toi, t'as fait n'importe quoi, t'as pas écouté, donc tu vas pas chez ton copain ce soir. Cause, conséquence.
Il est trop sévère.
Non,
non, non. Je crois que j'ai fait.
Alors, je lui ai dit, quand il est arrivé
à l'hôpital,
pendant tout le chemin, il a pleuré.
Oui,
il a dit, non, donne-moi une chance, donne-moi une chance. À la fin, je te dis très, très honnêtement, tu vois, je me livre complètement devant vous. Peut-être aussi pour avoir de vous votre expérience, parce que j'ai tout à apprendre de vous à ce sujet-là. Et je lui ai dit, en arrivant à l'école, je lui ai dit, tu sais quoi ? Tu choisis. Tu peux aller chez ton copain. Mais sache que tu m'as fait mal au cœur.
S'il choisit de les cabelles à l'atmo et à onesh, c'est mes rappels. Oui, mais il aura de la peine pas d'aller chez ton copain. Donc,
ah oui,
il aura la peine.
Mais qu'est-ce qui est plus... Donc qu'est-ce qu'il doit choisir ? Qu'est-ce qui est plus grave pour lui ?
Mais c'est difficile à son âge de choisir.
C'est difficile à son âge de choisir. Il me répondra tout à l'heure. Je lui ai dit, t'as jusqu'à 1h30 pour me.
Il a quel âge ?
9 ans.
C'est difficile à 9 ans de donner des choix cornéliens comme ça.
Ah là là, la vie est dure. Ah, je me suis fait punir.
T'es un père dur.
J'ai pas oublié, je me suis rappelé qu'il me suis fait punir beaucoup quand j'avais 9 ans.
T'es un père dur.
Non, j'ai raison.
Quoi. Voilà, c'est bien.
Non, il faut...
Perdu. Nounou.
C'est pas ta voiture.
C'était pas ta voiture. Bon.
Là, j'ai une voiture moderne.
Bon, ouais. Tom. Donc, tout ça pour dire qu'il y a, dans le judaïsme, une émouna forte dans ce qu'on appelle... Sacharvaonesh, t'as fait bien, tu reçois bien, t'as fait pas bien, tu reçois pas bien. Sauf que, on voit dans la metziyut,
dans la réalité,
je vous rappelle qu'il n'y a rien de plus fort que la réalité, on voit des rechaïm qui kiffent et des tzadikim qui souffrent. C'est correct. C'est pas possible. Le rachat, il doit en prendre plein la tête et le tzadik, il doit. Être tranquille.
Le premier qui s'est étonné de ça, c'est Moshe
Rabbeinu. Exactement. Et là, tu ramènes évidemment la question posée par Moshe Rabbeinu dans le Talmud à Dieu.
Et qu'est-ce qu'il y a répondu à Kadosh Baruch
Hu ? D'abord, quelle est la question que Moshe a posée ? Avant la réponse, quelle est la question ? Moshe a posé 4 questions. La première, c'est comment est-ce possible qu'il y a tzadik verra l'autre? Comment est-ce possible? Deuxième question.
Tzadik est
ralo. Cachelo. Il a du mal. C'est difficile pour lui. C'est la première question. Deuxième question. Comment est-ce que c'est possible qu'il y a racha vetovlo? Un racha et il kiffe. Troisième question. Comment est-ce possible qu'il y a tzadik vetovlo? C'est un tzadik et il kiffe. Quatrième question. Comment c'est possible qu'il y a racha veralo? Alors, ça c'est les 4 questions. Oui.
À quel moment j'ai déjà entendu ce midrash, mais il sort d'où? Il est en rapport avec quelque chose
dans... Oui, alors dans le midrash, non, le midrash il se replace au moment où Moshe il est vers Sinaï.
Avant le don de la Torah.
Au moment de Chet Ha'Egel.
Ah, au moment de Chet Ha'Egel.
Et quand Dieu lui fait voir toutes les générations, alors il va voir également Rabbi Akiva. Et il va voir Rabbi Akiva qui va se faire exécuter par les Romains. Et à ce moment-là, il dit « Zotora vezosrara » et donc c'est là qu'il pose la question. C'est-à-dire « Odenina et derachecha » Je veux comprendre tes chemins. Donc je veux comprendre ça, ça, ça et ça. Je veux comprendre d'abord la question de Moshe. La première question, elle est facile. Quoi, un tzadik, il ne kiffe pas. Un rachat, il kiffe. Ça, on comprend. C'est basé sur un point de vue moral. Mais la deuxième question de Moshe, à savoir, quoi, tzadik il kiffe et Racha il kiffe pas, mais c'est ce que tu voulais. Ken, mais tzadik, ça lui suffit pas d'être tzadik? Il faut aussi qu'il kiffe.
Des récompenses.
Ouais, mais en fait, il est content du simple fait qu'il est tzadik. Quoi, il a besoin de cette récompense.
En tout cas, c'est
déjà
une récompense d'être tzadik.
Ben voilà, ça suffit. J'ai pas besoin d'une récompense. Et le Racha, tu sais ce qu'il va prendre là-haut, Bagainom, ça suffit pas. Il faut aussi qu'il souffre ici.
Il y a un salaire ici, un salaire...
Le problème, c'est que Moshe, il avait trop tendance à être là-haut. Il y a une histoire qu'on raconte avec Reb Zusha de Anipoli. C'est Reb Zusha? Reb Zusha. Ça, c'est le problème de faire face à des tzadikim sfaradim. Les rabbins de la Chassidoute, on ne connaît pas ici. Hein, le Baal Shem Tov, t'as entendu parler?
Ouais.
Quand même. Le Baal Shem Tov, il avait un élève qui s'appelait le Magid de Mezerich, Rabbi Dov Ber Mezerich, qui est officiellement le vrai fondateur du mouvement chassidique. Le Baal Shem Tov a lancé l'idée, mais ça, il n'a pas fait un mouvement. Le Magid de Mezerich, c'est lui qui va créer le mouvement. Il va avoir à peu près une dizaine d'élèves sérieux qui vont être les premiers fondateurs de dynastie chassidique. Parmi les élèves les plus connus, on a le fondateur de Chabad, Rabbi Shneur Zalman de Ladi, l'Admor HaZaken. On a Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. On a, par exemple, Rabbi Israël de Rougin. On a, par exemple, Rabbi Elimelech de Lijansk, le Noam Elimelech, et son frangin, Rabbi Zusha de Anipoli. OK? Reb Zusha, il y a une histoire qui est racontée sur lui, qu'un jour, il y a une femme qui est venue le voir dans son bureau. Il a dit, Rabbi, prie pour moi, j'ai envie d'avoir un fils. À ce moment-là, Reb Zusha, il a pris le kvitel. Est-ce que c'est un kvitel?
Le
kvitel.
Le kvitel.
Le kvitel, c'est le petit papier avec lequel est marqué la demande. C'est un pétek.
Pétek.
Kvitel, pétek. Et donc il lui a dit, il a dit, t'as, et Rabbeinu shel olam, yiratzon milfanecha, Hashem elokeinu elokei avotenu. Je sais pas son nom, hein, mais c'est un nom où je suis sûr que ça touchera ni vos pères, ni vos mères, ni vos sœurs, ni personne. Quel est un fils? Top, non, c'est son rôle de tzadik, il prie. Et là, tout d'un coup, il entend une voix qui lui sort du ciel et qui lui dit, Zusha, arrête de prier. Je veux pas qu'elle ait de fils. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait, Reb Zusha? Ben, il continue à prier. Il s'en fiche de ce que la voix elle dit. Lui, c'est un tzadik. Le tzadik, il doit prier. C'est son rôle de tzadik. Donc, il continue à prier. Et là, la voix continue et lui dit, Zusha, je t'ai dit d'arrêter de prier.
Tu me fatigues.
Écoute-moi bien. Si tu continues à prier, si tu t'arrêtes pas, elle va avoir un fils à cause de ta prière. Mais toi, tu n'auras plus de Olam Haba.
Oula.
Alors, Zusha, il a dit. Hein?
Parce qu'il aura des
œufs. Et là, Rabbi Shaul dit, quoi quoi? Et voilà, il dit, oh, il est fait mal. Sauf, je peux prier, je peux faire la Torah sans attendre la récompense du Olam Haba. Comme ça, je suis un vrai tzaddik, je fais les choses sans attendre de récompense. Hein, c'est, sauf. Et donc, il a continué à prier. Et là, la voix, qui avait encore des choses à dire, elle a dit, Zusha, si tu pries, elle va avoir un fils. Et ton Olam Haba, tu l'auras quand même. Hein, t'as vu? Et il a continué à prier. Maintenant, là, parce que Béhémet, ne pas vouloir le Olam Haba, Zechet. On a vu dans le début de la Mishnah dans Pirkei Avot que Antigonos Omer Al Tiyu Ka'avadi Ba Meshamshim Et Arav Al Menat Lekabel Pras, qu'il ne faut pas faire les choses pour avoir le Olam Haba. D'accord. Sauf que Dieu, il veut te donner le Olam Haba. C'est pas faire de ne pas recevoir. C'est pas fait. Dieu, il veut te donner, il veut te faire kiffer. C'est comme si on a déjà été, je ne sais pas si vous avez déjà été dans votre jeunesse ou votre âge adulte de maintenant, est-ce que vous avez déjà été chez une grand-mère polonaise, voire slash marocaine, slash tunisienne, slash algérienne, en fait une grand-mère juive, qui vous a préparé des gâteaux, et que toi tu sors de table et que t'en peux plus. Et tu t'arrives, et elle te donne, mange mon fils. Bémet, t'en veux pas. En plus, tu sais que les gâteaux de cette famille-là, ils sont pas. Mais elle veut te les donner. Si tu les prends pas,
tu fais de la peine.
Tu sais comment tu vas lui faire de la peine? Si tu les prends, tu sais comment toi tu vas souffrir. Mais bon, elle est malade.
Si tu les prends, tu vas être malade.
D'accord, tu vas les prendre quand même. D'accord. Alors nous, on va pas être malade du Olam Haba, des rabbins, on va être super contents. Et à Kadosh Baruch Hu, il veut nous donner. Donc, ma tzadik vetov lo, lo maspik à Olam Haba, lo. Lo maspik. Olam Haba, il aura. Parce que Dieu, il veut donner. Tu viens. Mais Gamma Gialopo,
c'est un peu kiffé.
Eh ouais. Le rachat, il aura pas son Olam Haba, bah, chez lo. Mais il faudrait pas non plus qu'il pense que c'est chavelo, que ça vaut le coup de faire n'importe quoi ici.
Oui, mais le rachat, il s'en fout du Olam Haba.
Nahon. Mais donc faudrait pas qu'il pense.
Donc il n'attend pas de salaire du Olam
Haba. Mais c'est mais faudrait pas qu'il pense que donc ça lui profite ici. Ok. Maintenant, je reviens à la première question, parce que la première question, c'est celle qui nous intéresse le plus. Et c'est celle qui est ramenée ici dans la Mishnah. Comment ça se fait que le tzaddik souffre ici, et que le rachat, il kiffe ici? Alors, pas tous, évidemment, mais certains. À cette question-là, qu'est-ce qu'il a reçu comme réponse, Moshe?
Ne te mets pas de ça. En clair, en gros, il a dit, c'est pas ton domaine, c'est pas...
Il lui a dit un mot d'abord. Il lui a dit un mot d'abord. Il est important ce mot.
Pas les mots exacts.
Alors viens, je vais te rappeler. Il a dit...
Il a dit maspik, ça suffit.
Non, il n'a pas dit maspik. Il lui a dit... Shtok. Shtok. Ça veut dire... Tais-toi.
Voilà.
Lama, virgule, il aurait pu se contenter de lui dire tais-toi, ne te mêle pas de ça. Mais il a quelque chose d'autre à lui dire.
Alors, il a dit parce que c'est la marche
voilà, la marche. Alors, viens, je te le dis. Il dit shtok, car ala ba machashava lefanav. C'est-à-dire tais-toi, parce que c'est ainsi que c'est venu devant ma pensée. C'est ainsi que c'est dans ma pensée. Mais pourquoi alors il lui a dit shtok? Soit tu lui dis te mêle pas, et puis c'est tout. Soit tu lui dis juste, c'est comme ça que je pense. Pourquoi il a besoin de lui dire « Tais-toi, c'est comme ça que je pense. »
Pour qu'il arrête de prier.
Parce que si tu veux comprendre quelle est la pensée qui est devant moi, tu dois te taire.
D'abord.
Bien sûr. C'est-à-dire que si tu veux pouvoir comprendre quelque chose qui n'est pas de ton domaine, il faut que tu taises un petit peu toutes les voix qui sont les tiennes. Oui. Eh oui. Les voix du Seigneur, ben non, justement, elles sont pénétrables à condition que tu te taises.
Ouais.
Ça, bah, c'est vidéo.
Il faut être prêt à l'écouter. Quoi,
si c'est vidéo gaïnian, sûrement. C'est-à-dire que nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, l'homme a tsati la gouf tov, elle a shtika.
Seulement si je t'ai. Il peut pas te poser une question.
C'est-à-dire qu'il a posé la question et maintenant, si tu veux avoir la réponse, c'est toi.
Oui, il faut être souvent, à l'écoute de la réponse.
Très souvent. La personne qui pose la question, elle veut déjà donner la réponse dans sa question.
C'est ça.
Moi, je pense que...
C'est la question.
Hein?
C'est-à-dire qu'on parle de Moshé, là.
N'importe qui.
Mais, c'est-à-dire que Moshe, quand il posait la question comment est-ce qu'on cachérise un micro-ondes pour Pessah, c'est-à-dire il a posé la question, il a attendu la réponse sans problème. Mais plus la question est forte et profonde, plus celui qui est grand, il a besoin d'en comprendre tous les travers. Toi et moi, on se serait contenté de Shtok. Mais Moshe, Dieu, il sait qu'il ne se contentera pas de Shtok. Il dit Shtok, pourquoi ? Pour que tu puisses comprendre. Amarchava chez les fanels. Et c'est la grande différence en bataille.
Oui. Ce qui n'est pas clair là. Parce que si il lui dit stop, pourquoi ? Parce qu'il a posé la question.
Uh-huh.
Or, si il stocke, il ne pose pas de question. S'il n'y a pas de question, il n'y a pas de
C'est pour ça qu'il ne lui a pas dit stock avant qu'il pose la question. Il ne lui a pas dit stock avant de poser la question.
C'est pas vrai. C'est après la question. Il lui dit stock après la question.
Après la question.
Oui, exactement.
Oui, mais sauf que Dieu.
Attends, attends. Il ne pose pas de question, il n'y a pas de stock.
Attends, tu as raison, Abéliao. Dieu, il sait que Moshe, il va poser la question. Nahon ? Non, Dieu, il sait que Moshe, il va poser la question, là, dans deux secondes. Il aurait pu lui dire au début de la question, tais-toi. Il veut qu'il pose la question. Il veut qu'il comprenne, par contre, qu'une fois que tu l'as posée, c'est-à-dire, la question est légitime.
Sois à l'écoute de ma réponse.
Mais pour que tu puisses entrevoir une réponse qui est la mienne, il faut d'abord que tu fasses silence de tout ce que toi, tu penses.
C'est sévère, ça. C'est pas
sévère. Stop, stop. Tais-toi. Non, c'est pas de l'hébreu moderne. Non, attention, attention. Attends, deux secondes. Oui, mais Nachon.
Arrête les frais.
Nachon, mais ça, c'est en hébreu moderne. Deux secondes. En hébreu moderne, quand tu dis à quelqu'un shtok, c'est une insulte presque. Dans l'hébreu de la Torah, shtok, c'est tais-toi. C'est l'homme méchant, c'est l'autre, c'est tais-toi. Maintenant, tais-toi parce que je veux que tu comprennes autre chose. Car Alaba Marchava les Fanaï. Et ça, c'est une question qui est posée par exemple. Pourquoi est-ce qu'il y a des espaces dans le Sefer Torah? Il y a des espaces entre des mots, des fois des blancs. Pourquoi des blancs? Elle nous dit Sefer HaZohar, c'est que dès la tête, les Moshe, revach leitbonen. C'est pour donner à Moshe du temps pour réfléchir à ce qu'il vient de marquer. C'est, on a besoin de temps en temps, stop, silence, réfléchis.
Ce que je comprends pas, c'est comment il peut Moshe, il sait pas qu'il faut réfléchir avant de parler. Il sait pas qu'il faut qu'il entende.
C'est pas avant de parler.
Mais
mon ami, ça c'est la faute des Chachamim. C'est pas la faute des Pshuté Ha'am. Les Pshuté Ha'am, les gens qui savent pas, ils savent qu'ils savent pas. Donc quand ils ont une question, ils attendent juste la réponse. Mais les gens qui savent tellement de choses. Ouais. Ils ont déjà plein de réponses.
Ou qui croient savoir.
Non, mais même qui savent. Non, t'as raison, il y a ceux qui croient savoir, mais il y a même ceux qui savent plein de choses. Ils ont des réponses pour tout. On avait vu il n'y a pas très longtemps la Mishnah qui nous dit ne sois pas rapide à répondre.
Ouais.
Parce que quand tu es rapide à répondre, quelqu'un t'a posé une question, tac au tac. Tu fais genre, tu sais tout déjà. Peut-être que dans la question, il y a quelque chose que tu n'as pas bien compris.
Puis il y a l'idée aussi de laisser un enseignement à chaque fois.
Non seulement d'Aaron. Mais je dis, le plus dur, c'est pour celui qui sait. Parce qu'il pense qu'il a déjà une réponse. Vous vous rappelez du dernier personnage des quatre acolytes de la Haggadah de Pessah ? On a le Chacham, on a le Racha, on a le Tam, et on a...
Celui qui
s'est passé. Seulement, dans toutes les Haggadot dessinées, le Sheno de Alishol, il ressemble à un débile. D'Aaron ? Le Chacham, il ressemble à mon fils. Le Racha, il ressemble au fils du voisin. Le Tam, il ressemble au fils de ma belle-sœur, que bon, ça, il est Hamoud, mais bon.
C'est pas mon fils, quand même.
Hein ? Ma belle-sœur, si tu me regardes, non, ton fils, il est très bien.
Tu vas te réconcilier avec ton fils.
Ouais, on va couper au montage. Ah ben le Shein de Alishol dans les Haggadot dessinées, c'est celui que bon, ça devait être pour une quand Dieu il l'a fait celui-là.
C'est vrai. On peut avoir la même attitude vis-à-vis d'Hachem et vis-à-vis des autres. Je veux dire que j'ai du mal à interpréter.
C'est ce que Dieu nous demande.
Ma demande puisque
Dieu me demande d'apprendre de ses midot à lui.
Non. Mais ce que tu dis, apparemment Moshe aurait des réponses.
Oui.
Ben, c'est pas comme ça qu'on pose la question à Hachem. On peut poser la question donc à son égal.
Mais chasse le naturel.
Différemment, mais je veux dire, un peu comme si j'essaie de mettre en difficulté Hachem.
Parce que moi j'ai des réponses.
Non.
Donne-moi la réponse mais, et puis.
T'as pas compris. T'as pas compris. C'est même pas conscient. C'est-à-dire, qui m'a donné toutes les réponses, toutes les connaissances que j'ai? C'est Dieu. Moshé, il le sait que c'est Dieu qui lui a donné. Donc, il a déjà plein de réponses. Il vient avec une tonne d'idées dans la tête qui sont déjà pour lui des réponses. Quand il pose la question, « Lama esh tzadik veralo ?» C'est parce qu'il sait que « Yesh tachar va'onesh » et que donc il sait que normalement, celui qui a fait bien, il doit recevoir bien. Mais qui lui a appris ça? Dieu. Donc, il dit, « Dieu, tu m'as appris un truc. Je veux comprendre comment ça marche. Arrête ta 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 ta. » Et donc, c'est notre problème du Sheino de Alishol. Parce que Sheino de Alishol, je l'ai dit, il ressemble à un mec qui connaît rien, qui est débile. C'est faux. Le Sheino de Alishol, pour moi, c'est un professeur émérite à l'université, spécialiste en égyptologie ancienne. Il connaît par cœur la 18e dynastie. Il connaît par cœur les trouvailles archéologiques qui sont en rapport avec la sortie d'Égypte. Et donc, il ne sait pas Alishol. Parce qu'il a déjà toutes les tchouvotes. Il connaît tout. Et donc, il ne s'est même pas posé la question. Il croit qu'il sait tout. Alors, le Sheino de Alishol, c'est l'autre. Moshe, il sait Alishol. Mais il a aussi plein de questions. Dieu lui dit, Tishtok, Tashtik et kol ha-she'elot et kol ha-tchouvot. Et maintenant, écoute.
Mais il y a une vie, Moshe. Si tu veux, tu peux comprendre qu'il y a des questions à se poser de par
rapport. Mais bien sûr, non mais... La question, le questionnement, il est tout à fait bon et normal. Ouais. Seulement, il y a un moment donné où il faut que tu comprennes que pour pouvoir entendre la réponse, tais-toi. Maintenant, au niveau de Moshe, c'est par rapport à Kadosh Baruch Hu, mais c'est vrai pour nous. C'est vrai pour nous. Nous aussi, on pose des questions et on a déjà des réponses. Et quand le Rav, il nous donne la réponse qui n'est pas celle qu'on voulait entendre, on lui dit, non mais, Rav. Comme j'ai vu un jour un élève poser la question au Rav Cherki, ah, pourquoi Dieu il a créé le monde? Pourquoi Dieu il a créé le monde?
C'est une grande question.
Une grande question.
Alors le Rav il l'a regardé, il lui a dit, regarde, je pourrais te répondre en te disant que le Ramchal nous a expliqué dans la Agdama du Metzilat Yesharim que Teva Tatov Leetiv, que la nature du bien c'est de faire le bien, qu'il n'y a pas de plus grand bien que de créer, et donc Dieu qui est le bien il a créé parce qu'il voulait faire le bien. Mais dans la mesure où ce n'est pas ça ta vraie question, je ne vais pas te répondre ça. Je vais attendre que tu me poses ta vraie question. Alors il dit, comment ça? Il dit, tu t'en fiches de savoir pourquoi Dieu il a créé le monde. Tu as une autre question, alors pose-la. Et là, tu vois qu'il n'est pas bien. Et il dit, Tov, nous, ok, Rav, pourquoi j'ai pas le droit de toucher ma copine? Pourquoi j'ai pas le droit de toucher ma copine? C'était ça la vraie question de pourquoi Dieu il a créé le monde. Parce que qu'est-ce qui le dérange dans la création du monde? C'est qu'il a une copine et que les rabbins lui ont dit qu'il n'a pas le droit de toucher sa copine avant le mariage.
C'est bizarre.
Je t'invite à côtoyer les jeunes de 18 à 30 ans.
Ouais.
Pas que du Maromé, de partout. Ça veut dire? Parce que ça ne se fait pas de dire aux rabbins hein, des trucs comme ça. Ouais. Donc je vais le détourner. Mais le rabbin, voilà. Mais le rabbin qui a un petit peu de bouteille, il a l'habitude.
Il a vite
compris. Moi, il m'aurait posé la question, j'aurais dit, le rabbin.